De Gustave Lenôtre, Le vrai chevalier de Maison Rouge, chapitre 3, Le chevalier du poignard. On ne peut qu'admirer la façon vraiment géniale dont la Révolution fut mise en scène par ceux qui avaient intérêt à l'exploiter. Dans ce grand drame auquel assistait le peuple de Paris, spectateur passionné et naïf, et où les partisans de la cour donnaient la réplique au chef du parti démocratique, ceux-ci avaient le talent d'empoigner leur public, de l'intéresser, de l'exciter, de l'émouvoir, de le faire haleter d'angoisse, de le mêler à l'action. Ils trouvaient des mots qui portaient, des tirades enflammées, des situations palpitantes. Oui, la pièce fut aussi bien jouée par ces grands acteurs qu'elle le fut piteusement par la cour, tandis que celle-ci gardait un rôle effacé et silencieux, eux, toujours en haleine, renouvelaient chaque jour le programme, imaginaient des intermèdes de circonstances entre les actes et surtout savaient donner la note juste, la note sonore et éclatante qui fait vibrer à l'unisson toutes les âmes. La famille royale comptait encore, au commencement de 1791, de nombreux fidèles. On les eut nommés tout simplement les amis du roi, qu'une telle dénomination n'aurait que médiocrement frappé l'imagination populaire, mais on les désigna sous le titre de chevaliers du poignard. Et tout de suite, cette dramatique dénomination évoqua pour le peuple l'idée d'une association ténébreuse et redoutable, d'un groupe de spadassins masqués, prêts à égorger traîtreusement, dans l'ombre, tous les amis de la liberté. La légende fit son chemin. Mais d'abord, est-ce une légende? Exista-t-il des chevaliers du poignard? Oui, si l'on veut nommer ainsi tous les royalistes qui se groupèrent autour de Louis XVI, autant par dévouement désintéressé que par devoir de leur charge. Nous reconnaissons que ces hommes étaient un obstacle avec lequel la Révolution devait compter, que leur fidélité, si elle devenait contagieuse, pouvait avoir sur les sentiments du peuple une influence gênante. Ils étaient d'ailleurs difficiles à atteindre, puisqu'on avait à leur reprocher que leur attachement à la famille royale. Aussi importait-il de les tuer moralement. Le mot y suffisait, chevalier du poignard, et tout aussitôt, l'impopularité leur fut acquise. Quel fut leur nombre? Ils étaient 800, dit l'un. 500, avance un autre. 250, affirme un troisième. La vérité est qu'on l'ignore, et qu'il semble difficile de le supputer exactement, ces gardes du corps volontaires ne formant pas, comme on voulut le faire croire, une association régulière, une sorte de franc-maçonnerie ayant ses épreuves et ses rites, mais au contraire, un groupe composé d'éléments très divers et très variables, se recrutant au hasard des événements. Il n'est pas bien prouvé, d'ailleurs, qu'ils aient eu un but, entourer le roi, lui donner l'illusion d'une cour, éviter à la famille royale le contact immédiat de la garde nationale chargée du service du château, garde renouvelée chaque jour et souvent composée de gens grossiers ou mal intentionnés. Telle fut d'abord la raison d'être de ce bataillon de gentilshommes ralliés autour de Louis XVI, comme des soldats autour du drapeau en péril. Et si plus tard, ils eurent à défendre effectivement leur maître, à prendre les armes pour sa sûreté, ils ne se soumirent à cette extrémité que le jour où ils y furent contraints par les circonstances. Il serait bien impossible de dresser aujourd'hui une liste, même incomplète, de ces derniers serviteurs de la monarchie expirante. Si l'on voulait cependant citer quelques noms, on devrait sans doute mettre en premier rang M. de Villequier, gentilhomme de la chambre, qui paraît avoir été le chef, ou tout au moins le recruteur de cette petite phalange. On pourrait nommer ensuite le chevalier de Belleboeuf, fils du procureur général, de Villiers et Dubois de la Motte, capitaine de cavalerie, de Berthier, ancien premier avocat général de la cour des aides de Paris, de Chavigny, de Bec-de-Lièvre, de Pienne, de Frondeville, de Mailly, gentil de Fombelle, de la Bourdonnaye, Champin, Fauget, Portier, Dupec, Godard de Douville, Thévenot, Lacombe, officier pour la plupart ou ancien attaché à la maison du roi et des princes. Rougeville, nous en aurons la preuve, s'était enrôlé parmi les chevaliers du poignard. La reine elle-même l'avouera plus tard au cours d'un interrogatoire subi à la conciergerie. Son dévouement le fit même remarquer de la famille royale et lui donna une certaine importance. Des faits d'une authenticité indiscutable nous le montreront, à la veille du 10 août, investi de la confiance particulière du roi et de la reine. Pendant 2 ans, une seule idée, funeste et maladroite, semble avoir obsédé le cerveau de tous les royalistes restés fidèles. Ils voulaient enlever le roi, fût-ce malgré lui, et le conduire hors de Paris. Dès le mois d'octobre 1790, les chevaliers du poignard, nous leur laissons ce titre puisqu'il est acquis à l'histoire, s'occupaient de cet enlèvement. Ils avaient, dit-on, réuni dans ce but une somme de 10 millions. 3 000 cavaliers dévoués devaient attendre Louis XVI à Neuilly. Sous prétexte d'une promenade aux Champs-Élysées, le roi aurait rejoint cette escorte qui, en quelques heures, le conduisait à Rouen. Là, on devait mettre le pain à 1 sou la livre pour se concilier le peuple et faire enregistrer par le Parlement de Normandie, convoqué à l'avance, la cassation de l'Assemblée nationale et le rétablissement de l'Ancien Régime. Le comité de recherche, averti à temps, fit avorter le projet. Le roi, d'ailleurs, n'en avait pas été instruit, et Lafayette se chargea de lui apprendre le piège que ses maladroits amis lui tendaient. On prétend que Louis XVI pleura beaucoup et dit qu'on le trompait toujours. Puis, son naturel violent reprenant le dessus, il se fâcha et déclara que le premier butor qui lui parlerait de conspiration et de départ, il lui foutrait son pied dans le ventre. Notons qu'il faut, en rappelant ces incidents, faire la part des racontars plus ou moins véridiques dont on prenait soin de nourrir l'imagination populaire. Il n'était pas mauvais, en effet, de représenter Louis XVI comme étant la première victime de l'exaltation de son entourage. L'impopularité de cet entourage allait ainsi toujours en grandissant. Une fois isolé, le roi serait moins difficile à abattre. L'affaire du 28 février 1791, si évidemment préparée d'avance et grossie par la presse jacobine, n'eut certainement pas d'autre but. Ce jour-là, Paris apprit avec stupeur que les chevaliers du poignard avaient résolu de massacrer la garde nationale, occupant les postes du château, d'enlever le monarque de force, de le poignarder même en cas d'insuccès, et de mettre, pour en finir avec la Révolution, la capitale à feu et à sang. Après, on verrait. Cette ridicule légende, niaisement combinée, eut cependant un retentissement immense. La ville en eut connaissance par un placard à sensation que des crieurs payés clamèrent dans les rues. « Tremblez, Parisiens !» y lisait-on. Quelle est donc l'implacable rage des aristocrates? On se perd dans ce labyrinthe d'intrigues et d'horreurs. Hier matin, sur le midi, à l'heure de la messe du roi, on a aperçu dans les appartements du roi, aux Tuileries, un homme décoré de la croix de Saint-Louis, d'une taille très médiocre et habillé de noir, le trouble dans les yeux et ayant l'air de méditer quelque projet. Il allait et venait, et impatientait le Suisse de service qui les gênait et heurtait quelquefois dans ses allées et venues. Sa figure, son air, ses mouvements extraordinaires, le font remarquer. On s'approche, on se plaint que ses circuits et ses fréquentes promenades dans les appartements gênent le service. Il dit alors avec assurance « Je suis chez le roi, je suis fait pour y être. Et le roi seul a le droit de m'en interdire l'entrée. » On le serre de plus près. On aperçoit une certaine gêne dans son bras gauche, comme s'il avait eu quelque chose dans la manche de son habit et qu'il eût craint de le laisser toucher. On le suit, on l'observe longtemps. Enfin, on a trouvé sous son habit un poignard et deux pistolets dans ses poches. Si l'histoire est vraie, cet homme si plein d'assurance, décoré de la croix de Saint-Louis, de taille très médiocre, au regard troublé, nous paraît ressembler beaucoup à quelqu'un de notre connaissance. Serait-ce Rougeville ? Une pareille algarade est si bien dans son caractère que nous serions disposés à le croire. Mais ce n'est là qu'une supposition gratuite. L'incident, du reste, se réduisait à bien peu de choses. Le roi, averti, se rendit en personne dans les antichambres où la scène s'était passée. Pour y mettre fin, il donna l'ordre qu'on pria les personnes entrant au château ou en sortant de déposer les armes qu'elles pourraient avoir sur elles et qu'on fouilla les récalcitrants. On arrêta quelques anciens militaires qui se refusèrent à subir cette visite. On les conduisit à l'abbaye et l'on ne trouva sur eux aucune arme. Ce qui fit supposer que les chevaliers du poignard, pour échapper à la consigne donnée, s'étaient réfugiés en masse sous les toits où ils disputaient un asile aux chats du palais. Jusqu'au 10 août, c'est-à-dire pendant 18 mois, bien des badauds furent convaincus que les greniers des Tuileries regorgeaient d'aristocrates armés jusqu'aux dents, prêts à fondre sur le peuple au premier signal et à le massacrer sans merci. Néanmoins, la nouvelle était lancée, elle fit son chemin. Comme un mot d'ordre, les placards furent répandus à foison. On criait le récit exact de ce qui s'est passé aux Tuileries, détails de l'affreux complot, liste des aristocrates conjurés. On vendit des images populaires dont les légendes sont des chefs-d'œuvre de flagornerie à l'adresse du brave peuple qui venait de découvrir une trame si odieuse. Triomphe de la garde nationale. Un grand nombre d'aristocrates se trouva dans les appartements lundi soir, la garde toujours surveillante, s'apercevant de tous les mouvements de ces messieurs et qu'ils étaient armés, leur enjoignit de vider leurs poches. Même l'on fit une gravure représentant la forme exacte des infâmes poignards dont étaient armés ceux qui ont été souffletés, arrêtés ou chassés des Tuileries par la garde nationale. On le voit, l'irritation du peuple était soigneusement attisée. Le déplorable malentendu, né au premier jour de la Révolution, entre le parti de la cour et les démocrates, ne faisait que s'accentuer. Et les deux camps se regardant désormais comme irréconciliables, il convient de dire que de part et d'autre, la méfiance avait quelque raison d'être. S'il est hors de doute que dès cette époque, le parti révolutionnaire souhaitait la destruction de la monarchie, il est non moins vraisemblable qu'au nombre de ces chevaliers du poignard qui avaient fait le sacrifice de leur vie pour la défense de la cause royale, se trouvèrent quelques exaltés peu scrupuleux sur le choix des moyens. Est-il vrai, par exemple, que quelques-uns d'entre eux, à la tête desquels se trouvaient Thévenot et Laconche, louèrent la cave d'une maison voisine des Jacobins et entreprirent de creuser une mine jusque sous la salle du club. 30 hommes, armés de gourdins, devaient se rendre à l'une des séances, y faire une motion importante, susciter une émouvante discussion dont l'écho devait avoir pour effet d'attirer aux séances suivantes un public très nombreux. Thévenot et Lacouche auraient profité de cette circonstance pour mettre le feu à la mine et faire sauter à la fois tous les jacobins de Paris. Ce projet nous paraîtrait digne d'être relégué au nombre des bourdes ridicules dont on fouettait l'imagination populaire si une entreprise à peu près semblable, et parfaitement authentique celle-là, n'avait été combinée non plus cette fois à l'adresse du club des jacobins, mais bien à celle de l'Assemblée nationale elle-même. Rougeville était l'auteur de cette odieuse invention. Il s'en est vanté plus tard, et son aveu ne saurait laisser aucun doute. C'était la coutume, alors, au cours de certaines séances de l'Assemblée, d'admettre à la barre les députations venues de tous les coins de France pour dénoncer des complots, témoigner de l'attachement du peuple au nouvel ordre de choses ou offrir des dons patriotiques. La barre s'ouvrait, le président prononçait quelques mots et la députation traversait toute la salle du manège aux applaudissements des députés. Rougeville avait eu l'idée de mettre à profit cette facilité. Il devait, sous un déguisement, se présenter, poussant devant lui un tonneau décoré de rubans tricolores, rempli en apparence de monnaie de billon, provenant de la fonte des cloches de son village et dont il ferait offrande à la patrie. Semblable cérémonie se faisait trop souvent pour qu'elle pût éveiller en aucune façon les soupçons de l'assemblée. Puis, quand il aurait été introduit dans le prétoire même, au pied de la tribune du président, son intention était de mettre le feu à une mèche phosphorique, communiquant au baril plein, en réalité, de poudre fortement comprimée et qui, en éclatant, devait réduire en poussière le manège, anéantir la représentation nationale et terminer la révolution. À la faveur de l'émoi causé dans Paris par un tel événement, la famille royale gagnait Saint-Cloud et les soldats suisses, sur le dévouement desquels on pouvait compter, coupaient après son passage les ponts de la Seine. Rougeville savait bien qu'il serait la première victime de cette stupéfiante machination, mais de ceci, il s'inquiétait peu. Son fanatisme, ou peut-être son incommensurable ambition de faire parler de soi, lui avait donné le mépris de la vie. Est-il besoin de dire que cet attentat resta heureusement à l'état de projet? Le parti royaliste eût été à jamais déshonoré par un tel acte, et si Rougeville le conçut, ce dont on ne saurait douter, ce fut moins dans le désir de le mettre à exécution que pour se poser lui-même en évidence et bien montrer que son héroïsme ne connaissait pas de bornes. C'est par de telles hâbleries qu'il parvint à imposer son encombrant dévouement à la famille royale. Il était de ceux qui, chaque jour, allaient au château, se dépensaient en complots illusoires et, faut-il le reconnaître, contribuaient, par leur attitude, à aveugler Louis XVI et à lui aliéner la population parisienne. Le mauvais renom des chevaliers du poignard grandissait toujours. Les gardes nationaux de service aux Tuileries ne se taisaient plus sur leurs agissements. Ils racontaient à tout venant que les spadassins se glissaient chaque jour chez le roi par une porte secrète percée dans l'appartement de monsieur de Villequier. Eh bien, là encore, la rumeur populaire disait vrai. Le hasard nous a fait rencontrer, dans les cartons des archives nationales, un petit plan de l'appartement de monsieur de Villequier aux Tuileries, avec une modification permettant de passer directement de cet appartement dans le couloir desservant les petits cabinets du roi. Monsieur de Villequier occupait 4 ou 5 pièces prenant jour sur la cour au rez-de-chaussée. On y pénétrait par un passage mettant en communication le carrousel avec le jardin. La fameuse porte évitait donc aux personnes que Louis XVI désirait entretenir en secret, le long parcours à travers l'escalier d'honneur, la salle des Suisses, les deux antichambres, la salle du trône et la salle du lit de parade, chambre d'apparat sans cesse remplie de courtisans, de gardes, de gentilshommes, de valets de pied et d'espions. Servait-elle, comme on l'a dit, à l'entrée des chevaliers du poignard? C'est possible. Mais elle avait été percée dans un autre but. C'est par là que la famille royale, dans la nuit du 20 juin 1791, parvint à s'évader du château, sans avoir à traverser les grands appartements toujours encombrés, et où la garde exerçait nuit et jour sa surveillance. Rougeville s'est flatté d'avoir été tenu au courant du projet de fuite qui échoua si piteusement à Varennes. Nous n'en croyons rien. À l'entendre, Louis XVI et Marie-Antoinette n'auraient pas eu de plus intime confident que lui. Il est temps d'ailleurs de lui laisser la parole. Les pages que nous allons citer semblent un chapitre détaché des aventures du baron de Trenck. Nous les donnons cependant telles qu'il les écrivit, en supprimant toutefois un emphatique et insignifiant discours, nous réservant de rechercher ensuite ce qui peut se trouver de vrai dans ces étonnantes gasconnades. Mes conseils, écrit-il, n'ayant pu surmonter ceux des ennemis de mon roi, c'est avec un douloureux pressentiment que je vis l'époque de sa perte. Car mes yeux pénétrants s'occupaient à contempler tous les hommes qui entouraient le trône. J'en démêlais les différents caractères. À l'époque de la fatale journée du 20 juin 1792, j'eus l'occasion de faire sentir à leur majesté toute la conséquence de mes idées et de mes conseils par les dangers qu'ils ont encourus ce jour-là, où ils me donnèrent carte blanche sur les moyens les plus sages à prendre dans cette périlleuse circonstance qui finit plus heureusement qu'on avait lieu de s'attendre. Cette journée me mérita de la part du roi et de la reine tous les témoignages de gratitude et de satisfaction, et M. de Choiseul-Stainville fut principalement chargé de la part de la reine, de me récidiver toute sa reconnaissance. Je puis aussi me glorifier de la conduite que je tins dans la journée du 14 juillet 1792. Leur Majesté était dans les plus vives inquiétudes sur la suite de cette sinistre journée. Après leur en avoir fait moi-même quelques jours avant un tableau déchirant, car je ne les flattais jamais, je me suis empressé, la veille, de les rassurer par les dispositions que j'avais prises de rassembler un grand nombre de royalistes, lesquels avaient fait le serment de ne point abandonner leur majesté à quelque péril que ce fût. Effectivement, notre contenance ferme et vigoureuse en a imposé au scélérat chef de parti qui avait peut-être des vues et des projets destructifs. Nous conduisîmes et amenâmes leur majesté en triomphe. Cette journée me mérita encore le contentement du roi, et il eut la bonté de me dire, le soir même, à son coucher, devant toute la cour, que j'étais infatigable et qu'il m'avait bien des obligations. La reine, le même soir, paraissait être inquiète sur la suite de cette scandaleuse journée et le retour de ces cannibales. Je l'ai rassurée, en lui promettant de faire l'observateur toute la nuit. En me donnant le mot d'ordre, elle eut la bonté de me dire aussi « De grâce, ménagez-vous, vous êtes précieux. » Et le lendemain, jeudi, elle eut la générosité de me dire, devant toute la cour, « Grâce à vous, monsieur de Rougeville, j'ai passé une nuit tranquille. Mais vous, vous ne dormez ni ne mangez. » Le 30 du même mois, jour de l'arrivée des Marseillais, je ne craignais point d'assembler publiquement aux Champs-Élysées 150 des plus attachés à leur majesté, les mêmes que j'avais requis le 20 juin et le 14 juillet de la section des filles Saint-Thomas et des petits pères, afin de les engager à se multiplier et de là venir camper dans le jardin des Tuileries pour s'opposer aux entreprises que pourraient faire au château les sans-culottes. « Voici, leur dis-je, l'occasion la plus favorable, garde valeureux. » À peine avais-je achevé ces dernières paroles que le général Santerre est venu à notre rencontre, muni de deux pièces de canon. À sa vue, nous nous mîmes en ordre, nous criâmes « Vive le roi et la famille royale !» On nous attaqua, nous nous défendîmes, mais il fallut céder par la force. Et après plusieurs de nous tués et blessés, nous trouvâmes à propos de faire une sage retraite dont nous fûmes protégés au pont tournant du château par les Suisses, d'après les ordres de leur majesté. Depuis cette époque jusqu'au 10 août, je n'ai cessé de présenter à leur majesté les dangers imminents qui les menaçaient. En leur produisant les plans du comité secret des Jacobins, suivant avec une constance imperturbable toutes les ramifications, en recueillant tous les projets, en saisissant tous les fils. C'est à ce moment que je dis avec intrépidité au roi et à la reine qu'il fallait nécessairement adopter l'un de mes plans, où que j'allais, pour les sauver, donner l'exemple du plus rare courage, dont la suite me faisait entrevoir les choses les plus flatteuses. J'ai un baril de poudre à ma disposition. Je m'offre de le conduire moi-même à cette assemblée nationale. J'en aurai un autre rempli d'argent. Je me présenterai pour faire un don patriotique à la nation. Je me munirai d'une mèche phosphorique. Et, à cheval sur le tonneau comme Bacchus, au moment où vos majestés seront à Saint-Cloud entourées de vos fidèles Suisses et après avoir eu soin de faire jeter bas les ponts adjacents, j'y mettrai le feu et par cet exemple et cette destruction, j'épouvanterai tout le reste des usurpateurs. Mais, grand Dieu, il était donc écrit dans la destinée que mes souverains devaient périr sur l'échafaud et par les mains des ennemis que je voulais à moi seul détruire. Le 10 août, journée exécrable pour les Parisiens, tandis que je faisais conseiller au roi et à la reine de se réfugier à Saint-Cloud ou à Courbevoie, préférablement que d'aller à cette assemblée nationale, j'étais aux Champs-Élysées avec un piquet pour couvrir la retraite du roi et de sa famille. Je ne vis malheureusement encore dans cette fatale journée que le triomphe des scélérats par l'irrésolution de leur majesté, et j'ai été le malheureux témoin de voir égorger des hommes qui, par leur amour et leur fidélité pour leur roi, étaient venus se ranger sous mon commandement, dont je n'ai trouvé moi-même mon salut que dans la fuite, au travers des corps morts et au milieu d'une mousqueterie effroyable dont trois balles ont percé mon habit. Mais une nouvelle destinée m'attendait chez moi. Si la précaution et la fidélité de mes domestiques ne les avaient fait venir à ma rencontre pour m'engager à n'y pas apparaître, parce qu'un nommé Saint-Urugue m'y attendait pour m'assommer et s'était déjà emparé de mes effets et de mes chevaux. Ne m'ayant pas vu paraître ce jour-là, il ne douta pas que je n'étais victime de mon attachement pour mon roi. Mais ayant su que je m'étais réfugiée à l'hôtel Dauphin, près l'hôtel Soubise, rue des Quatre Fils, au Marais, il m'y fit arrêter le 16 août, d'où je parvins, le 28, à sortir de la prison par séduction et à prix d'argent, 2 jours avant les assassinats du 1er et du 2e jour de septembre. Depuis ma sortie, je me suis constamment occupée, autant que j'ai pu le faire, sans compromettre leur majesté, alors détenue au temple, à soutenir leur parti, relever le courage de ceux que la captivité de leur souverain avait abattus et le massacre de septembre rendu pusillanime, et tâcher d'engrossir le nombre. J'ai de nouveau rassemblé les débris de ma fortune et les restes de ma force pour aplanir les difficultés. la simple lecture d'un pareil factum ne laisse aucun doute sur la véracité de son auteur. Rougeville a voulu se poser en personnage et chercher à faire croire que ses avis comptèrent pour quelque chose dans les conseils du roi. Telle est l'impression première, mais on ne peut jamais, quand il s'agit d'un intrigant de cette force, affirmer ou nier une chose en toute sincérité. On se tromperait en acceptant pour vrai ses allégations. On se tromperait encore en les repoussant. Différents indices semblent, en effet, établir que tout dans ce rapport n'est pas mensonge et vantardise. D'après le témoignage de Marie-Antoinette elle-même, Rougeville resta, le 20 juin 1792, aux côtés de la reine pendant toute la durée de l'occupation du château par la populace. Les appartements de Marie-Antoinette étaient situés au rez-de-chaussée des Tuileries, prenant jour sur le jardin. En même temps que le peuple envahissait le grand escalier du pavillon de l'horloge et s'entassait dans les antichambres du roi, une bande se dirigeait vers le vestibule, joignant le pavillon de Flore vers l'appartement de la reine. On enfonça, à coups de hache, la porte de la première pièce où étaient rangés, derrière des paravents, les lits des gens de service. On fouilla et retourna à ces lits. On enfonça la porte de la salle de jeu, ensuite celle de la chambre à coucher de la reine. On se vautra dans son lit et l'on passa dans le cabinet voisin. Là, l'attroupement s'arrêta, vomissant mille imprécations contre Marie-Antoinette, disant qu'il fallait la voir morte ou vive. La reine échappa à la fureur des émeutiers. Au premier tumulte, elle était montée par un escalier dérobé jusqu'à la chambre du roi. De là, tenant le dauphin par la main, elle s'était réfugiée dans la salle du conseil donnant sur la cour. Elle y resta jusqu'à l'heure où, les portes ayant cédé à la pression de la foule, Santerre et Pétion donnèrent l'ordre d'ouvrir les portes de galerie pour que le peuple, tassé dans les antichambres au point qu'il ne fallait pas songer à le faire refluer par le grand degré, put trouver un écoulement par l'escalier voisin du pavillon de Flore. La reine, protégée par la table à tapis vert du conseil, sur laquelle se tenait debout le jeune prince, assista donc au défilé de l'émeute. Elle était entourée d'un cercle de gardes nationaux auxquels étaient venus se joindre quelques députés royalistes. « Faites place !» leur cria Santerre, « pour que le peuple voie la reine. » C'est alors qu'un homme du peuple tendit à Marie-Antoinette un bonnet rouge pour en coiffer le dauphin. Santerre, debout près de la table, faisait circuler la file et criait « Regardez la reine et le prince royal !» Cette scène, pénible, dura jusqu'à 8 heures du soir. Il est évident que la reine courut là un grand danger. Il suffisait d'un exalté pour occasionner au milieu de cette foule excitée et fiévreuse un incident dont les conséquences auraient pu être terribles. On peut donc croire que les rares défenseurs massés autour de Marie-Antoinette et du dauphin étaient des gens absolument sûrs, exerçant une surveillance de tous les instants, que la reine avait sur eux une confiance illimitée, puisqu'elle remettait entre leurs mains non seulement sa personne, mais encore le sort de son fils. Il est certain que toute la tactique de ce petit groupe consista à ne pas se laisser entamer, à ne laisser approcher de la table où se tenait le dauphin nul individu inconnu ou même d'un dévouement douteux. Il composait une sorte de bataillon sacré, dernière ressource de la royauté, prêt à tirer l'épée et à mourir au premier simulacre de tumulte. Eh bien, Rougemont était de cela. « Il resta près de moi, dit la reine, dans la chambre où je me tenais, tout le temps où j'y demeurais moi-même. » Et certes, on peut en conclure que son dévouement était connu et apprécié, puisqu'on l'acceptait en une si grave circonstance. Mais voici qui prouve mieux encore que son importance n'était pas un leurre. Sa conduite au 20 juin avait, sans nul doute, été remarquée de la famille royale, car nous avons trouvé dans ses papiers un imprimé signé de lui et qui nous semble un document si curieux que nous en reproduisons ici la disposition typographique. De la part du roi, messieurs les ministres s'assembleront à 7 heures du soir pour le conseil, aujourd'hui vendredi 29 juin 1792. Signé de Rougeville. Ainsi donc, voilà notre héros si bien entré dans la confiance de Louis XVI qu'il est chargé de réunir le conseil des ministres. Si on admet ce fait, l'intimité avec le roi dont il se targue devient vraisemblable. Et comment croire pourtant que cet homme qui, au moment même où ces événements se passaient, vivait irrégulièrement, comme on le verra bientôt, dans un hôtel garni avec une femme dont il escroquait les économies, qui n'était ni gentilhomme, ni chevalier de Saint-Louis, ni officier, quoiqu'il se donnât pour tout cela. Qu'on pouvait, sans lui faire tort, traiter d'aventurier, d'intrigant. Comment croire qu'un tel homme reçut les confidences suprêmes du roi et parla avec lui sur le ton de la familiarité? On s'y perd, et maintes fois nous avons été sur le point d'abandonner l'étude de cette singulière figure, tant nous semblait décevante la recherche de sa véritable silhouette. Sa vie fut une perpétuelle comédie. Il y joue toutes sortes de rôles, de si piteux et de si brillants, qu'après avoir été sur le point de le siffler, on se prend tout à coup à l'applaudir. Ainsi, au commencement de 1793, à l'heure où l'on juge le roi, où les plus courageux n'osent pas élever la voix, il publie à ses frais et il répand dans Paris une brochure où il plaide chaudement la cause de l'accusé et qu'il signe de son nom en l'accolant à cette épitaphe « Des maîtres que le ciel établit sur nos têtes, la chute ou les revers sont pour nous des tempêtes. La sûreté publique à leur sort nous unit, Dieu seul, quand il le veut, les juge et les punit. » Le texte de cette brochure n'est pas à citer. C'est une longue et lourde élucubration sans intérêt. Mais l'auteur s'y montre royaliste, exalté. Et lorsqu'on songe au courage dont il fallait être doué pour imprimer en janvier 1793 un tel appel à la clémence des conventionnels, on ne peut douter que Rougeville fût sincère, son dévouement à la cause royale n'était ni intéressé ni simulé. Au 21 janvier, son rôle fut effacé. On sait que de Batz avait entrepris de sauver le roi pendant le parcours du temple à l'échafaud. Il avait réuni 500 conjurés qui, à un signal, devait se jeter sur la voiture royale, enlever le condamné et le conduire jusqu'à Saint-Denis. On comptait sur un mouvement populaire et sur la complicité de Dumouriez pour faire le reste. Mais le 21, dès 2 heures du matin, le plus grand nombre des 500 affidés, dont les noms avaient été révélés à la police, furent réveillés par des coups frappés à leur porte et 2 gendarmes se présentaient chez chacun d'eux avec ordre de ne point les perdre de vue et de les empêcher par tous les moyens possibles de sortir avant midi. Rougeville faisait-il partie des complices du baron de Batz? C'est probable. Il se cachait d'ailleurs à cette époque pour échapper à un danger où ses opinions royalistes n'entraient pour rien. Nous avons encore raconté cette page peu flatteuse de son histoire avant d'entamer le récit de la plus importante de ses aventures.